Session théologique par le Père Philippe à Saint-Jodard le 9 août 1988, conférence de l'après-midi.
On a posé des questions par rapport aux voies d'accès pour la découverte de l'être premier. Je comprends qu'il y a des quantités de questions qui se posent. Hein. Après tout, la session est faite pour réveiller votre intelligence. Et donc vous posez des questions. Voir qu'il y a un chantier énorme, énorme. On ne peut pas tout expliquer. Mais si je voulais maintenant expliquer les cinq voies d'accès par rapport à l'être premier, ben, il faudrait consacrer le reste de la session à ça. Je suis fidèle à ce qu'on a annoncé. J'ai situé seulement ce qui était nécessaire dans la démarche philosophique pour que le problème de la création apparaisse au philosophe sous son véritable jour. Tant que l'intelligence humaine n'a pas découvert l'existence d'un être premier, acte pur, Aristote a découvert l'existence d'un être premier, acte pur. Ne disons pas que c'est à cause de la révélation que je dis ça. Et saint Thomas l'a repris. L'intelligence peut, c'est le propre de l'intelligence métaphysique, découvrir l'existence, la nécessité de poser un être premier, acte pur. Au moment où le philosophe découvre cela, il peut se poser la question: quelle est la relation qui existe entre cet être premier et moi-même qui ne suis pas l'acte pur? C'est pour ça que c'est très humiliant de poser l'acte pur, très humiliant de poser l'être premier, parce qu'à ce moment-là vous êtes bien obligé de reconnaître que vous êtes un être second, alors que vous avez une autonomie psychologique première. Psychologiquement, vous croyez que vous êtes complètement autonome, et là, vous voyez que vous êtes second, mais radicalement second, dès que je découvre un être premier. Ça joue beaucoup plus que vous ne le pensez, comme obstacle très fondamental à la découverte de l'être premier. Nietzsche le dit, hein? Si Dieu existe, il est créateur. Or, je suis créateur, donc Dieu n'existe pas. C'est dit magnifiquement et honnêtement, il faut lui reconnaître. Mais dans l'erreur la plus complète. Une sorte de sincérité affective étonnante. Et je crois que c'est très vrai pour tous ceux qui affirment la non-existence de Dieu. Je crois qu'on ne peut affirmer la non-existence de Dieu qu'à cause d'un a priori affectif. C'est qu'on ne veut pas lâcher le morceau. On ne veut pas. Être agnostique, c'est différent. Dire « je n'arrive pas », c'est très très différent. Mais affirmer l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, ceci n'existe pas. Bien, je crois que honnêtement, on ne peut le conclure que s'il y a un a priori affectif. Et cet a priori affectif, il est facile à comprendre, c'est celui de l'orgueil. Je ne veux pas également dépendant. Je veux garder mon autonomie. C'est pas nécessairement psychologiquement dit de façon explicite. Je dis, c'est radical. Quand je dis que la philosophie, c'est supprimer tous les a priori, la philosophie supprime cet a priori-là, qui est l'a priori le plus radical qu'on porte en soi. On n'a pas envie du tout de dépendre radicalement d'un être autre que moi. On veut être à nous-mêmes notre propre prince, avoir notre propre autonomie. Il faut y réfléchir là-dessus. Il ne faut pas le dire devant quelqu'un qui affirme l'idéologie athée. Vous n'allez pas affirmer ça tout de suite. Si vous êtes très amis de lui, vous pourrez le dire. Rostand, à la fin de sa vie, affirmait: si j'ai tellement de peine de découvrir l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu, c'est sans doute parce que dans ma jeunesse, j'étais dans un milieu scientiste et j'étais marqué par ça. Il l'a confié à un de ses amis. Vous savez que Rostand avait une épouse extrêmement catholique, que Rostand vénérait et aimait. Et elle, très catholique. Et les enfants étaient élevés dans l'église catholique. J'ai connu un fils qui était amateur, très poussé. Je ne sais pas s'il avait l'intelligence de son père, mais tu vois, il était très amateur, mais lui était un excellent catholique. Et ce qui plus est, un excellent thomiste. Alors, c'est bien. Il aimait beaucoup saint Thomas. Ce qui était un signe de son intelligence, hein. Entre nous, on peut dire ça. Alors, poussons. Donc, je ne peux pas voir les cinq voies maintenant. Comprenez que c'est un gros problème philosophique, capital, et qu'on doit se le poser. Comment l'intelligence humaine peut-elle, par elle-même, découvrir l'existence de l'être premier ? Si on est catholique, Vatican I l'a affirmé. Donc, je n'ai pas le droit de le refuser. Je peux très bien dire, j'accepte, Vatican I l'a dit, j'accepte, je ne vois pas du tout comment. Mais j'accepte, puisque ça a été défini par Vatican I. Je ne veux pas refuser Vatican I. Vous savez, ceux qui ont refusé Vatican I, ce sont des vieux catholiques. Alors ceux qui refusent Vatican II, on n'a pas encore dit d'épité. On n'a pas mis une dénomination extrinsèque. Après, chaque concile a toujours eu ça. C'est très curieux, c'est mystérieux ça. C'est le démon qui se déchaîne. Donc, les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, les cinq voies d'accès vis-à-vis de Dieu, pour découvrir, ou les dix, c'est au point de vue du chrétien, c'est sûr, mon intelligence est capable par elle-même de détecter la nécessité absolue de poser un être premier, acte pur, esprit, qui se contemple. Ce que dit Aristote, l'être premier, c'est la contemplation de la contemplation. C'est très beau. On n'a rien dit de plus beau que ça. Et saint Thomas le reprend. C'est la contemplation de la contemplation. Dieu, esprit, ne peut que se contempler. Et il a conscience de sa contemplation. Donc, il est la contemplation de la contemplation. Noésis, noéseos, la pensée de la pensée. Et celui qui se pense. Donc, ayez cette conscience chrétienne que l'intelligence humaine peut. Et d'autre part, si vous suivez l'itinéraire d'une philosophie réaliste, vous aboutissez forcément à cette interrogation : existe-t-il un être premier ? Et qu'est-ce que je peux dire de lui ? Alors là, l'élaboration des cinq voies. Pouvez-vous expliquer ? Toute multiplicité réclame un premier. Oui, ça, c'est très beau, ça. Ça, grande affirmation, toute multiplicité ordonnée exige un premier. Parce que l'anarchie n'exige pas de premier. Donc toute multiplicité existante, ordonnée, exige une mesure et un premier. Parce que l'ordre, dans ce premier, dans cette multiplicité, ne peut pas être expliqué par la multiplicité. Il faut donc qu'il y ait quelque chose d'autre qui pense cette multiplicité pour l'ordonner. Or, la multiplicité de la race humaine, est-elle une multiplicité anarchique ou ordonnée ? L'homme, à côté de l'hippopotame ou de la girafe ou de l'éléphant, ce n'est pas une multiplicité ordonnée. Tandis que l'homme, Pierre, avec Jacques, ils sont deux et ils sont un. Puisque Pierre est un homme, Jacques est un homme. Et où Jacques est le fils de Pierre, c'est un ordre. Où Jacques n'est rien du tout par rapport à Pierre, il dépend d'autres, il dépend d'autres. Il faut aller très très loin pour retrouver la souche première. Il y a Adam qui se profile. Il se profile très très loin, préhistorique. Adam, c'est un être préhistorique. Réel, mais préhistorique. C'est pour ça que pour tous ceux qui sont des positivistes et qui, pour eux, l'existence est liée à l'histoire, Adam, un mythe. Adam n'est pas un mythe, mais il est un premier d'un symbolisme divin. Il est réellement une personne qui a existé, mais que vous ne pouvez pas connaître par la science et par l'histoire. Et vous connaissez par la foi. Donc, un savant ne découvrira jamais le crâne d'Adam. Je suis à l'abri. Parce que Adam n'est pas une donnée historique. Adam, c'est... Puisque je vous ai dit, scientifiquement, vous ne pouvez pas atteindre le premier. Adam est au-delà de la science. Adam n'a aucun sens pour un scientifique. Ne parlez jamais d'Adam à un scientifique. Soyez intelligent et sachez que c'est un secret chrétien. C'est un secret. Je suis croyant, moi. Oui, mais papa, t'en n'est pas ça. T'en n'est pas les perles au pourceau. C'est dit. Donc il ne faut pas le donner. Il faut garder ça. Adam n'est compréhensible que pour le croyant. Et pour le croyant, oui, il est compréhensible. Ça n'a aucun sens pour le scientifique. Aucun sens même pour le philosophe. Donc, je ne peux même pas dire ça. Hein. Je peux le dire en tant que croyant, mais pas en tant que philosophe. Donc, effaçons. sont ordonnés puisqu'ils ont même nature humaine. Donc il faut nécessairement que cette multiplicité implique un premier. Mais je ne sais absolument pas qui il est. Rien du tout. Il faut qu'il y ait un premier. Alors quel est ce premier ? Puis-je le découvrir ? Les cinq voies. Alors, je vous indique tout simplement la piste. Y a-t-il une signature de Dieu pour ses chefs-d'œuvre ? Si je pouvais reconnaître la signature de Dieu sur mon bras, sur mon front, tiens, mais vous voyez bien, il y a la marque. Je ne peux remonter jusqu'à Dieu que si je découvre, hypothétiquement, que si je découvre en Pierre et Jacques la marque de Dieu. Autrement, je ne peux pas. Y a-t-il la marque de Dieu dans Pierre ? Y a-t-il la marque de Dieu dans Jacques ? Alors, c'est par là qu'on doit se poser la question. C'est une question très intéressante, du reste. Hein? Parce que si je découvre la marque, je suis sauvé. Vous comprenez bien que la marque de Dieu ne peut pas être la nature humaine. Ça ne peut pas être la nature humaine. Pourquoi ? Si c'était la marque de Dieu, la nature humaine, il faudrait que Dieu soit un homme, un surhomme, qui a mis sa marque. Alors, est-ce que je peux découvrir la marque de Dieu ? Oui, Pierre existe. Jacques existe. Ah, il y a quelque chose de commun. Ils existent tous les deux. C'est, en latin on dira celesse, c'est l'être, l'être en acte, présent Pierre, présent Jacques. Est-ce que c'est pas ça la marque de Dieu ? Je peux me poser la question, hein, hypothétiquement. Si Dieu existe, quelle est la marque de Dieu ? Je dis, c'est mon être, mon exister, qui est commune à toutes les réalités que j'expérimente. Ceci est. Ceci existe. Alors, si c'est la marque de Dieu, je dois pouvoir, par le point de vue de l'exister, remonter jusqu'à Dieu. Il s'agit de découvrir. Vous voyez, c'est pour ça que je prends la comparaison d'une grande forêt avec ses avenues. Découvrir le point central où il y a quelqu'un d'invisible. Si Dieu existe, il est invisible. Dieu ne peut être qu'invisible, ne peut être que spirituel. Ça ne peut être qu'un esprit. Dieu ne peut pas être un corps. Le corps n'est pas premier, le corps est second. Donc, j'ai simplement indiqué la piste. Et si je montre comment toute multiplicité réclame un premier, parce que toute multiplicité ordonnée implique nécessairement une mesure qui ordonne cette multiplicité. Comment la philosophie peut-elle parler du péché ? On ne l'a pas encore vu. On le verra après. N'est-ce pas le rôle de la révélation qui nous donne ce qui est utile à croire ? Oui, oui, oui. Ce qui est utile, ce qu'il faut croire, en vue de la vision béatifique. Ce n'est pas de l'ordre de l'utilité, c'est de l'ordre de quelque chose de beaucoup plus profond. Que pensez-vous du mot d'un exégète juif ? Le premier traité de physique, c'est le décalogue. Autrement dit, peut-on parler de l'homme ou l'expérience du réel sans y adjoindre en proposition bien sûr, tout de suite, la révélation qui change notre rapport avec les choses réelles. C'est vrai, c'est pas vrai, ça. On va expliquer. Parce que quand je vous regarde, ou quand je regarde n'importe qui, je ne dis pas « quelle belle créature ». Donc, il y a une connaissance de l'homme, il y a une connaissance de l'homme qui est uniquement par l'expérience que j'en ai, donc philosophique. Mais la grâce présuppose la nature. La foi présuppose l'intelligence. Alors, il y a donc une connaissance philosophique antérieure à la foi. Remarquez, hein, l'Église condamne ceux qui prétendent que je ne peux atteindre l'existence de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu que par la foi. On appelle ça le fidéisme. Et l'Église le condamne. Oui. Ce qui montre que l'Église veut sauvegarder le rôle propre d'une intelligence humaine capable, par elle-même, de découvrir le sens de Dieu. Si un exégète juif dit que le premier traité de physique, c'est le décalogue, c'est analogiquement. C'est que le premier traité de physique fonde tout le reste. Le décalogue fonde tout le reste. Oui, donc c'est un raisonnement analogique, ce qui exige constamment dans les raisonnements des exégètes juifs. Il y a une analogie constante. Ils sont habitués à ça. Tu resteras bien. Et c'est ça, l'analogie, c'est le fondement. Donc le premier traité de physique, c'est parce que c'est le fondement. Et le décalogue est le fondement. Et pour eux, l'homme n'est homme que si, de fait, il obéit à Dieu. Vous voyez ? Dans la pensée juive, à Maïmonide, pas, considère qu'on ne peut pas connaître Dieu sans la foi. Et beaucoup de penseurs juifs sont comme ça. Alors dans cette perspective, oui, c'est presque contradictoire d'être philosophe et juif. Le juif est croyant. Et le juif identifie juif et homme. Et donc l'homme est croyant. La foi chrétienne a mieux montré création et recréation. A mieux fait comprendre que la foi présuppose l'intelligence, mais que la foi n'est pas l'intelligence, et que l'intelligence peut œuvrer sans la foi. Il y a une philosophie. Oui. Alors, il y a un fait massif. C'est que la philosophie grecque, Platon, Aristote, ont existé sans la foi. Ils avaient des traditions religieuses, mais ils n'avaient pas la foi. Donc, nous allons continuer, si vous voulez, parce que la session est une session théologique, donc je ne veux pas tarder trop sur la philosophie, bien que ce soit très important. Nous étions donc arrivés à ce moment précis en philosophie première, en métaphysique, la découverte de l'être premier, acte pur, contemplation de la contemplation, celui que les traditions religieuses appellent Dieu. évidemment, il faudrait reprendre tous les noms des traditions religieuses par rapport à Dieu. Allah, le Tout-Puissant, l'Éternel. Vous pouvez prendre tous les noms par lesquels, de fait, dans les traditions religieuses, on parle de Dieu. C'est intéressant à regarder, du reste. Quelle est la relation qui existe entre cet être premier et moi-même quand je dis « je suis » ? Les traditions religieuses appellent ça « création ». Et je vais, moi, essayer de comprendre si, au plan philosophique, création est un mythe ou une réalité. Et la question posée, est-ce que c'est un mythe ? Si c'est un mythe, la culture scientifique renvoie prendre des limites. Donc ne parlons plus de la création. Si au contraire, c'est une réalité, nous n'avons pas le droit de ne pas en parler. Parce que c'est une vérité. Alors, est-ce un mythe ? Est-ce une vérité ? Je suis arrivé, et ça c'est quand même un problème extrêmement important. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Je vous en montre tout de suite l'importance. Si je découvre qu'entre moi-même et l'être premier, il y a un lien, une relation de dépendance absolue, cette relation est réelle de mon côté, du côté de Dieu, c'est moi qui l'ajoute. Relation de raison. S'il existe cette relation de dépendance et que je suis capable d'en prendre conscience, je dois donc honorer celui dont je dépends. Par là, je découvre l'attitude religieuse. Et j'ai ma septième dimension. L'homme est un animal religieux. L'homme est naturellement religieux. C'est le point de vue de l'adoration. L'adoration est naturelle. Et elle développe en moi une de mes véritables dimensions. Vous voyez comme c'est important quand même de pouvoir montrer que une morale laïque qui se prétend être la morale humaine, la seule, est dans l'erreur. Il y a une morale religieuse qui est essentiel à l'homme, que j'ai découvert, je ne l'ai pas découvert, ça c'est autre chose, mais qui n'est pas du tout, vous voyez, comme on dirait aujourd'hui, confessionnel, pas du tout. Tout homme bien né doit adorer. Tout homme bien né. Et s'il n'adore pas, il oublie l'essentiel de sa vie. Donc, il est un peu fou. Et c'est vrai, c'est ce qu'il faut dire. Un homme qui n'adore plus et qui délibérément ne va pas, il y a un peu un petit grain de folie. La folie de l'orgueil. Il ne veut pas. S'il cherche, c'est différent. Mais s'il a dit non. Parce que l'homme, naturellement, est religieux. Et des psychanalystes autrichiens ont montré que le rejet de cette dépendance à l'égard de l'acte premier, donc le rejet de l'acte créateur, de la création, était source de toutes les angoisses. C'est pas étonnant, puisqu'au fond, je demeure orphelin. Je ne sais plus où est mon père. Et quand on prend conscience qu'on est orphelin, on est angoissé. C'est pour ça que c'est tellement intéressant au point de vue philosophique de voir qu'il y a une possibilité pour moi, ayant posé l'être premier, de découvrir cette relation de dépendance. Alors comment je vais la découvrir, hein ? C'est ça qui est intéressant à voir. Comment découvrir cette relation de dépendance ? Je peux m'appuyer sur les traditions religieuses, mais encore une fois, quand même, je peux avoir l'expérience de l'acte religieux, de l'adoration, si j'ai déjà adoré dans ma vie. Je peux avoir cette expérience que me mettre dans la situation de celui qui reconnaît sa dépendance à l'égard de l'être premier. Aime cette dépendance, c'est une libération. La grande théologie de la libération, c'est la théologie de l'adoration. La grande théologie de la libération, il n'y a pas d'autre, c'est la seule qui vous libère. Donc je peux avoir cette expérience-là, c'est très vrai, mais je peux prendre un autre moyen qui me semble plus juste. Plus juste, voyez, plus philosophique. Parce que l'autre, je m'appuie sur la tradition. Et donc, m'appuyer sur la tradition, c'est pas encore une libération totale. Parce que dans les traditions religieuses, il y a des quantités de choses qui sont plus ou moins exactes. Vous voyez, c'est le torrent qui descend très haut et qui charrie des quantités de choses. Et dans toute tradition religieuse, il y a des tas de choses qui sont plus ou moins justes, plus ou moins vraies, même dans les traditions chrétiennes. Ceux qui vivent uniquement de tradition, c'est un poids, c'est lourd. On a toujours fait les choses comme ça, on doit toujours les faire comme ça, et quand on vous demande pourquoi, ah, je ne sais pas. Je me souviens, j'ai compris ce que c'était que la tradition religieuse. Une fois, c'est en Algérie. Au moment septembre, je devais aller prêcher là-bas. Et c'était le retour de la cueillette des olives, fin septembre, je crois. Le soir, toutes les femmes revenaient avec des énormes paniers sur la tête remplis d'olives. J'ai vu une de ces femmes portant un vieux tronc d'olivier. C'était comme une croix qu'elle portait sur ses épaules. C'était très beau. C'était avec les couleurs, la lumière du soir. Et je regardais à côté des hommes en train de boire leur café. Et il y avait au milieu d'eux l'homme de prière. Je pouvais me considérer comme un homme de prière et donc égal à l'homme de prière. J'avais quelqu'un qui me traduisait en arabe ce que je voulais lui poser. Je lui posais une question très indiscrète. Et je voulais la poser. Mettre les pieds dans le plat. Comment se fait-il que ces femmes ont travaillé toute la journée pendant que vous preniez votre café ? Alors, il y a un moment de silence. Alors, il a eu cette parole admirable. La tradition. Ah, ça vous fait comprendre. Mais les traditions charrient des tas de choses. Une tradition, pour être vivante, doit toujours être renouvelée. Perpétuellement. Autrement, elle n'est pas vivante. Elle se renouvelle constamment. Autrement, on fige une tradition. Et figer une tradition, c'est un été noir, au point de vue de la pensée. Ça peut durer un certain temps, mais ça ne dure pas. Tellement important, ça, de ne pas confondre tradition et foi. Des quantités de jeunes rejettent la foi parce qu'ils rejettent la tradition. S'ils savaient la différence qui existe entre la foi chrétienne, qui est un acte personnel, et la tradition chrétienne, ils ne rejetteraient pas les deux choses en même temps. Oui, les traditions religieuses sont souvent liées à des traditions familiales, à des traditions politiques, à des traditions de langue. La foi est au-dessus. La foi est libre par rapport à la langue. Heureusement, la foi est au-dessus. Elle est au-dessus de la famille. C'est pas mes parents qui m'ont donné la foi, qui m'ont donné le baptême, qui m'ont donné la grâce. Ils ont pu me présenter, c'était déjà très beau, mais c'est pas eux qui m'ont donné la grâce. La grâce m'a été donnée directement par Jésus. Et la grâce fleurit dans la foi. Et donc par la foi, je suis directement relié au Christ. La foi est au-delà de toutes les traditions. C'est elle qui est la source de la tradition. Donc elle est plus antérieure. Donc, c'est très bien de s'appuyer sur la tradition, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Aller plus loin, c'est quoi? C'est essayer de comprendre. J'ai découvert cet être premier. Et moi-même, cet être premier existe. Et j'existe. Mais mon existence, elle est limitée. Mon existence, mon essai, mon exister, il est limité. La preuve, c'est qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui existe aussi, et qui n'a pas la même existence que moi. Donc, mon exister est limité. Si mon exister est limité, il n'est donc pas tout ce que je suis. Il est donc reçu. J'existe, mais je pourrais très bien ne pas exister. Et si je n'existais pas, est-ce que mon voisin ou ma voisine pourrait exister ? Pas le jour où je disparaîtrai que nécessairement mon voisin, ma voisine disparaîtra. Même si on est très unis par des liens d'amour, notre existence, c'est la mienne. Je suis indépendant. Et celle qui est à côté de moi est indépendante, ou celui qui est à côté de moi est indépendant. Donc, mon exister, il est limité, il dépend d'un autre, parce qu'il est limité. Mon exister, c'est mon acte d'être. Et mon acte d'être, il est limité, il dépend d'un autre. Il dépend d'un autre, il dépend de celui qui est existé pur. Or, j'ai découvert l'acte premier comme celui qui est l'existé pur. Donc, mon exister dépend de cet être premier. Cette dépendance, qu'est-ce qu'elle est exactement? Est-ce que l'être premier, tel que j'ai découvert, qui est pur esprit, contemplation de la contemplation, qui est parfait, qui est infini, est-ce que il devait nécessairement créer, me réaliser. Est-ce qu'entre moi et cet être premier, j'ai un droit à mon exister ? Est-ce que j'ai un droit à mon exister ? Non. J'aurais pu très bien ne pas exister. Je n'ai aucun droit à mon exister. Si je n'ai aucun droit à mon exister, ça prouve donc que l'être premier qui m'a fait exister, c'est dans une opération absolument libre, de pur amour. Il m'a créé dans un pur amour. Autrement, il n'y a rien loin de justice entre lui et moi. J'aurais un droit à mon exister. J'ai aucun droit. Donc, je suis créé dans une opération libre de pur amour. C'est très beau, ça. Hein, je peux arriver à découvrir tout ça, philosophiquement parlant. Et c'est m'analyser, ça. C'est analyser qu'il y a en moi une dimension particulière, qui est une dimension de dépendance radicale à l'égard de l'être premier. Et que cette relation de dépendance est une relation, oui, libre. Libre du côté de Dieu. Et de mon côté, suis-je libre ? Ah. Non, puisque je suis totalement dépendant. Reconnaître cette relation de dépendance à l'égard de l'être premier, reconnaître cette relation d'amour à l'égard de l'être premier, je ne suis pas libre de dire « ça ne m'intéresse pas ». Pas du tout. Je dois m'y intéresser. Pourquoi ? Parce que c'est moi. C'est mon être. Et c'est mon être que je dois considérer, que je dois aimer. Alors, comment puis-je répondre à cette relation de dépendance à l'égard de l'être premier ? Je peux y répondre que d'une seule manière, en adorant. L'acte d'adoration, qui est remettre entre les mains de celui qui m'a créé ma propre existence. Je remets dans les mains de l'être premier ce que je suis. Puisque ce que je suis est totalement dépendant de lui. Et donc, je n'ai pas le droit de ne pas considérer cette dépendance. Et dès que je considère cette dépendance, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est de reconnaître que je suis totalement dépendant de lui. L'acte d'adoration. Mais comme c'est beau ça, parce que c'est dans cet acte d'adoration que va naître l'attitude religieuse de celui qui reconnaît l'être premier. Par l'acte d'adoration. Et cet acte d'adoration est foncier en moi. Je suis libre de le poser ou de ne pas le poser. C'est sûr, je suis libre de le poser ou de ne pas le poser, mais je dois le poser. Autrement, je ne reconnais pas tout ce qui est en moi. Ai-je le droit de ne pas reconnaître tout ce qui est en moi ? Ai-je le droit de vivre dans le mensonge ? Non. Ne pas reconnaître cette dépendance à l'égard de l'être premier, c'est de me mettre dans le mensonge. Puisque c'est me donner à moi-même une autonomie qui n'existe pas. C'est ça le mensonge. Je falsifie le réel. comme, c'est très important pour avoir une lucidité parfaite sur soi. C'est très exigeant, c'est bien évident, c'est exigeant. Mais c'est la vérité, ça. Je suis un être qui est radicalement dépendant à l'égard des en premier, puisque je ne suis pas l'être en premier. Puisque mon exister est un exister participé. Vous voyez comment je puis arriver au plan philosophique à reconnaître qu'entre moi-même et l'être premier, il y a une relation de dépendance. Toute relation de dépendance se fonde sur une action. Et cette action, c'est l'acte créateur. C'est Dieu qui me communique ce qu'il a. Moi, je n'ai rien, puisque je pourrais très bien ne pas exister. C'est Dieu qui me communique mon exister. Et en communiquant mon exister, il réclame de moi un sourire, reconnaître que je suis dépendant de lui. Et reconnaître que je suis dépendant de lui en l'adorant, en me mettant totalement relatif à lui. Et je crois que ça, nous pouvons le saisir. Et par là, je fonde philosophiquement la création. Et vous, que la création n'est pas un mythe, c'est une réalité. Alors vous voyez tout de suite, j'espère, que ce n'est pas du tout le problème de l'origine. J'existe actuellement. Et du fait même que j'existe, je pose au Créateur. Quand Dieu a-t-il posé son premier acte de Créateur? Voilà l'origine. Vous voyez l'équivoque, hein? C'est très très intéressant ça, de bien voir que poser l'existence de Dieu et poser cette dépendance radicale à l'égard de Dieu, c'est bien découvrir mon origine, ma dépendance actuelle à l'égard de Dieu. C'est mon origine, mais ce n'est pas l'origine du monde. Ce n'est pas l'origine du premier homme. C'est mon origine. Il y a quelque chose en moi qui est dans un état de dépendance absolue à l'égard de l'être premier. Ce quelque chose qui est en moi, qui est dans un état de dépendance totale vis-à-vis de l'être premier, c'est mon essai participé, c'est mon exister. Mon exister limité. Et c'est vrai, c'est quelque chose de très radical en moi, mon exister, quand je dis « je suis ». Quand vous dites « je suis », quand vous parlez de votre exister, mais c'est tout votre être. Donc c'est très radical en vous, et c'est en même temps ultime. C'est donc bien détecté et dévoiler une relation radicale de dépendance et donc découvrir mon origine. Découvrir mon origine au niveau de l'être. Pas découvrir mon origine au niveau historique, scientifique. Non, c'est au niveau de l'être. Je découvre donc là mon origine au niveau de l'être. Je ne découvre pas du tout l'origine de l'univers. L'origine des hommes. Je me pose la question. Est-ce que le philosophe peut dire qu'il y a une origine à notre univers ? Poser la question. Parce que c'est, qu'est-ce que je vais. Dieu existe, j'existe. Un dialogue merveilleux. Ah, si nous étions deux, comme ça irait bien. Parce que lui n'est pas gênant, tout de suite tout. Je ne suis pas gênant pour lui, je ne lui ajoute rien. je reconnais que je suis totalement dépendant de lui. On vivrait très bien à deux. Très très bien. Il me laisse tranquille, royalement tranquille. Philosophiquement parlant, hein. Il faut l'adorer. Reconnaître qu'il est mon Dieu. Je me pose la question maintenant au plan philosophique. Est-ce qu'il y a une origine pour notre cosmos? Est-ce qu'il y a une origine pour l'homme? Il y a nécessairement, ben, je ne sais même pas si on peut dire nécessairement, y a-t-il nécessairement une fin? Donc, j'ai saisi l'acte d'être, puis-je remonter historiquement à un premier? Puis-je toucher un ultime? Plan philosophique, hein? Bien, je dis, et c'est saint Thomas qui le dit, l'intelligence humaine, laissée à elle-même, donc l'intelligence philosophique, ne peut pas dire que le monde, que notre univers a été créé dans le temps. Je ne peux pas non plus dire qu'il est éternel. Je ne peux rien dire. L'ignorance à l'égard de ce premier historique, je ne peux rien savoir. Est-ce qu'il y a eu un premier homme? S'il y a un premier dans l'univers, il faut nécessairement. Il y a un premier homme. L'homme est apparu à un moment donné. Puis-je dire quelque chose sur ce premier homme? Au plan philosophique. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a en lui quelque chose qui relève directement de Dieu. Au plan philosophique, je peux le dire. Au plan philosophique, je peux dire que mon âme immortelle, que mon âme spirituelle ne vient pas de mes propres parents. C'était pas dans mes gènes. C'est Dieu, le Créateur, qui lui agit directement pour créer mon âme. Ça, je peux le dire au plan philosophique. Il y a donc eu un premier homme. Oui. Comment ce premier homme est-il apparu sur notre planète? Je n'en sais rien. Était-il à Mars avant, dans Vénus, puis s'ennuyer, parachuter sur la Terre? Je n'en sais rien. Ce serait difficile à préciser, mais je n'en sais rien. Je ne peux rien dire sur le commencement de l'univers et sur le commencement de l'homme. C'est désolant. Je ne peux rien dire. Oh, je peux inventer des tas d'histoires. Le jour où j'aime beaucoup d'exister, c'est très euphorique. Le jour où j'en ai par-dessus la tête d'exister, alors la vision est beaucoup moins euphorique. Et c'est vrai, il y a des visions multiples au point de vue des traditions. Mais ce que je sais, c'est que le philosophe ne peut rien dire sur le comment de l'apparition de l'homme sur l'univers. Et le philosophe ne peut rien dire sur le comment du point de départ de notre univers. Ça, c'est une purge, purification, rien du tout. Si vous avez votre petite théorie, votre petite opinion, très bien. Marquez-les, notez-les. Parce que c'est sans doute génial. Mais scientifiquement et philosophiquement parlant, vous ne pouvez rien dire. Très important ça, hein, de comprendre ça. Rien dire. Donc, je suis réduit, si vous voulez, philosophiquement parlant, on dit oui, c'est vrai. L'homme est apparu dans notre univers. Est-il apparu en dépendance d'animaux distincts de lui, mais très proches? De l'évolution. Est-il apparu directement? Dieu l'a façonné. Je n'en sais rien, philosophiquement parlant. Mais je peux quand même négativement dire ceci. Quand même intéressant, je crois. Prétendre que l'homme provienne d'un animal supérieur aux animaux qu'on voit actuellement, hein, parce que ceux-là n'ont pas évolué. Même les très beaux singes qu'on voit, c'est pas très drôle d'être en face d'eux, mais c'est colosse. Puissant. L'immense avantage, c'est qu'ils ne pensent pas, vous comprenez? Donc ils peuvent grossir. Ils peuvent faire des muscles, donc ça à faire. C'est vrai que c'est pas très drôle de rencontrer ces animaux-là quand ils sont en sainte liberté. Parce que paraît-il qu'ils n'aiment pas du tout qu'on se moque d'eux. Dans certaines routes que j'ai prises il n'y a pas très longtemps, et de temps en temps, on rencontre des singes costauds, pas de ces petits gentils, hein, et qui sont là, qui se mettent sur la route, qui regardent les autos passer. Je crois qu'avec leur estimative, ils vont dire, tiens, Renault, telle date. Ils disent, c'est un voisin, on est voisin. Ils leur disent, mais non, tu te trompes. Ils ont une petite estimative, hein, les singes. Alors, est-ce qu'il y a une espèce animale très parfaite qui aboutit à l'homme? C'est ce qu'on dit dans la théorie de l'évolution. Est-ce qu'au plan philosophique, où j'ai une certaine conception de Dieu créateur, il m'a créé par pur amour et dans sa sagesse? Alors, c'est là où je me pose la question. Est-ce convenable, convenience, est-ce que ce n'est pas choquant, on peut dire ça en anglais, est-ce que ce n'est pas choquant pour un Dieu créateur sage et qui crée par pur amour de dire que son chef-d'œuvre le fait dépendre d'un être imparfait. Là, il faut faire appel aux artistes. Et je crois que toutes les erreurs proviennent de ça. C'est qu'on conçoit l'acte créateur dans le prolongement de la biologie, alors qu'on doit concevoir l'acte créateur avec les analogies de l'artiste. Dieu en créant est un artiste. Pas du tout un savant. Un artiste. Un contemplatif artiste. Parce qu'il fait quelque chose, il fait une œuvre. Et cette œuvre, il fait un chef-d'œuvre dans cette œuvre. Est-ce qu'un artiste, un grand artiste, génial, quand il fait son chef-d'œuvre, est-ce qu'il se sert de ce qu'il a fait précédemment? Regardez les croquis de Rembrandt, les croquis de tous. Jamais un grand artiste se fait la main. Puis quand il veut réaliser son chef-d'œuvre, il le réalise. Du moins, il tend à le réaliser. Une fois qu'il sera réalisé, il dira que c'est son chef-d'œuvre. Pas avant. Il n'en est pas entièrement maître. Mais jamais il prend quelque chose en derrière. C'est du repeint, ça va pas. C'est un petit artiste qui fait ça. Un vrai, véritable artiste ne fait pas ça. Ça fait penser, hein. Ça fait réfléchir. Vous voyez, l'évolution est née de la science, pas de l'art. Demandez à un artiste qui pense de l'évolution. De sa propre évolution. Il rira. Mais non, j'essaie d'être fidèle à ce que je porte en moi. Dieu, que ça évolue, si vous voulez, si vous voulez. Moi, ça m'est tout à fait égal. Ce sont les critiques d'art qui regardent les évolutions. Mais l'artiste, il veut être vrai. Et il réalise son œuvre successivement. Vous voyez, c'est là où on touche quelque chose d'extrêmement important. Et évidemment, je sais qu'en disant ça, je vais contre tout. Après tout, tant pis. Si c'est la vérité. Pouvons-nous parler de l'action créatrice de Dieu en se servant d'autre chose que de la comparaison de l'artiste? On pourrait dire, ah, c'est un père de famille. Dieu, c'est un père. Donc, il communique la vie. Il communique l'esprit. C'est un père. C'est vrai, c'est un père. Mais la création n'est pas au niveau de la vie, c'est au niveau de l'être. Et c'est là où tout de suite je vois, n'est-ce pas, que de fait, l'évolution ne dit rien de la création, puisque la création est au niveau de l'être, et l'évolution est au niveau de la vie, ce que nous avons vu. Vous voyez, hein, quand j'essaie de comprendre le comment de l'apparition de l'homme dans cet univers, je ne peux rien dire. Mais je peux seulement montrer.